Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 2009. Au menu. L'ADN débarque dans l'affaire Grégory, la mort prématurée d'un To Be Free et celle du grand Alain Pachoum. L'histoire de Bernard qui fait de la pub pour trouver du travail. Et la gendarmerie à la recherche d'un tueur en série de lapins.
L'année 2009, on te la raconte sur Europe 1.
En 2009, les analyses ADN permettent de relancer certaines affaires judiciaires. Et c'est le cas en octobre de l'affaire Grégory. Presque 25 ans, jour pour jour, après la découverte du corps du petit garçon dans la Vologne, on a identifié des empreintes ADN sur un courrier du corbeau.
Les deux empreintes retrouvées appartiendraient à un homme et à une femme. Ils auraient été isolés sur du courrier adressé par le corbeau à la famille Villemain, plus précisément sur un timbre et une lettre. Les autres scellés analysés sont eux restés muets. La priorité maintenant, c'est de mettre un nom sur cet ADN, un ADN qui ne correspondra pas forcément à celle du corbeau. Les différents protagonistes du dossier vont donc devoir être retrouvés et prélevés, peut-être même certains habitants de l'Épange sur Vologne, le village du petit Grégory.
Pour Maître Belzer, l'avocat de Bernard Laroche, un cousin un temps accusé du meurtre de Grégory, cette avancée de la science n'est pas forcément une bonne chose. Selon lui, les analyses ADN pourraient même conduire à de fausses pistes.
Faut pas croire que la science a réponse à tout. Imaginez qu'on trouve l'ADN d'un voisin. On va aller chercher ce voisin, le clouer au pilori en disant « Qu'est-ce que vous faisiez il y a 25 ans à cette époque ?» Si on réouvre ce dossier, alors on met tout sur la table. Et ça veut dire que la machine à dérapage est rallumée et ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau des dégâts sans pour cela, je le crains, être assuré qu'on trouve la vérité.
Les magistrats aussi mettent en garde. Si on arrive à identifier le corbeau, auteur des lettres, rien ne prouvera en revanche qu'il est l'auteur du crime. En attendant, les résultats des comparaisons ADN sont formels. Christine et Jean-Marie Villemain, les parents du petit garçon, sont hors de cause.
Les profils génétiques de Christine et de Jean-Marie Villemain ont été établis et par conséquent comparés. Et il n'y a aucune trace de Christine ou de Jean-Marie Villemain sur l'ensemble des supports qui ont été analysés.
On a aussi trouvé de l'ADN sur les cordelettes qui en serraient les mains et les pieds du petit garçon. Mais elles sont nombreuses et partielles.
Elles permettront de dire « ça n'est pas cette personne ». Elles peuvent peut-être permettre, mais ça, on le saura que quand on aura fait des comparaisons avec un support donné. Par exemple, je fais un prélèvement sur Monsieur X, je compare avec ses traces mélangées. Il se peut que les concordances soient très fortes. Auquel cas, on dira il y a quand même 98% de concordance.
Concernant les empreintes retrouvées sur le courrier, il faudrait maintenant pouvoir les comparer avec celles de tous les protagonistes de l'affaire, y compris ceux qui ont eu la lettre entre les mains. L'entreprise s'avère titanesque.
Tout a été tripoté, patouillé par X personnes, les juges y compris. Le courrier, tout ça a été manié, remanié. Ils trouveront peut-être quelque chose, des noms, mais qui n'ont rien à voir avec vraiment l'action de l'affaire, quoi.
Et si on leur demande leur ADN, vous pensez que les habitants du village sont prêts à coopérer ?
Très peu. Peut-être les proches voisins, mais encore.
Seule certitude, les deux ADN retrouvés n'appartiennent pas au couple Villemain. François, un habitant de l'Épange sur Vologne.
Moi, de ce que j'ai vu à cette époque-là, il n'y avait pas d'hostilité envers le couple Villemain. Tout le monde se posait beaucoup de questions, c'est sûr. Oui, mais bon, c'est pas possible que ce soit les parents, quoi.
Mais dans la vallée, certains redoutent surtout une nouvelle guerre des clans entre les différents protagonistes du dossier.
Je pense que ça va remuer encore un petit peu dans les chaumières au niveau des tensions entre certaines familles.
Avant de faire défiler tout un village, il faut commencer par regarder dans le dossier les personnes qui, en logique, ont pu approcher les supports concernés. Voir si oui ou non quelque chose peut correspondre, et puis si ça n'est pas le cas, c'est la théorie des cercles. On part du plus près et puis si on ne trouve pas, on s'éloigne de manière à mettre le maximum de chances du côté de la manifestation de la vérité.
Finalement, les ADN retrouvés sur le courrier et sur les cordelettes ne déboucheront sur aucun résultat. Mais parfois, l'utilisation de l'ADN dans de vieux dossiers est un succès. C'est comme ça qu'en 2009, en Floride, un détenu de 54 ans est innocenté après 35 années passées derrière les barreaux.
James Bain avait été condamné à la prison à perpétuité en 1975 pour l'enlèvement et le viol d'un garçonnet de 9 ans. La victime avait fait une description de son agresseur à la police et l'avait identifié sur une photo avec l'aide de son oncle, un enseignant qui avait eu James comme élève. Mais Bain avait un alibi. Il était devant sa télévision chez lui avec sa sœur. Le juge n'avait rien voulu entendre. Aucun avocat n'avait voulu demander de nouvelles expertises jusqu'en 2001. Et après 3 tentatives rejetées par les tribunaux, il a fallu attendre le bon vouloir d'un juge plus conscient. Des éléments d'ADN prélevés à l'époque sur la scène du crime ont finalement été comparés avec ceux de Bain. Aucune compatibilité, c'est l'innocence. Parmi les 248 détenus américains innocentés grâce à l'ADN aux États-Unis, James Bain est celui qui est resté le plus longtemps derrière les barreaux.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas.
C'était Vanessa Paradis avec Il y a en 2009, chanson écrite et composée par Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attaque.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2009.
En 2009, le chanteur des To Be Three, Philippe Nicolic, monte sur les planches dans une adaptation de Viens chez moi, j'habite chez une copine.
En 1975, un vrai carton à Paris.
Une pièce écrite par Louis Rego, Didier McCaminka, et elle a été réactualisée 30 ans plus tard, et elle est toujours d'actualité. Je suis très très heureux de la faire.
Donc pour vous, c'est un vrai virage?
C'est un vrai virage, oui.
Le leader du boys band le plus célèbre de France a mis quelques années avant de refaire décoller sa carrière. La faute peut-être à son physique avantageux, c'est ce que disent certains.
Et alors, une question qui revient, c'est par rapport à votre physique, parce que vous avez été élu Monsieur France, d'après ce qu'on nous dit. Non ? Ah, c'est une fausse information. Alors, je c'est un pas. Téléspectateur qui est mal informé et il nous demande si finalement ce superbe physique ne vous a pas desservi à un moment, si vous n'avez pas été jugé un peu trop lisse.
Je crois que c'est un peu réducteur de penser comme ça, mais c'est vrai que... Non, en France, on a trop tendance un petit peu à cataloguer les personnes. Alors, ils sont beaux, ils n'ont pas de talent.
C'est vrai, non,
oui, c'est vrai. Un peu comme ça. On les tiroirise un petit peu, donc on ne peut pas... Il n'y a pas une ouverture d'esprit qui est assez grande. Aux États-Unis, par exemple, les chanteurs n'ont pas de problème pour passer à la comédie, ou la comédie... On remarque que c'est beaucoup plus difficile en étant comédien de passer chanteur que chanteur... C'est vrai, il y a beaucoup plus de bons chanteurs, chanteurs qui sont très bons comédiens que le contraire.
Cette interview de Philippe Nicolic est une des dernières qu'il donne. Car quelques jours plus tard, on annonce sa mort à seulement 35 ans.
Le chanteur des To Be Free, Philippe Nicolic, est décédé aujourd'hui à Paris d'un arrêt cardiaque ou d'un abus de somnifère, selon son avocat. Né à Saint-Ouen en 1974, il avait connu un immense succès à l'époque des boys bands, jusqu'à devenir un phénomène de société. Le groupe était même entré au musée Grévin. Leur album Partir un jour s'était vendu à 4 millions d'exemplaires. Dans les années 2000, Philippe Nicolic s'était reconverti dans la comédie en espérant un retour à la chanson. Il travaillait sur un album depuis quelques mois.
Une des amies d'enfance de Philippe Nicolic, interrogée au lendemain de sa mort, a du mal à trouver les mots.
C'est même pas une forme d'injustice, je sais même pas comment on peut appeler ça. Faut savoir que moi je me suis toujours référé à Philippe puisqu'il est né le 1er septembre 1974 et que moi je suis né le 2 septembre 1974. Et souvent on se le disait, enfin quand on était plus jeune, voilà, on était repérable et repéré par ça, on a le même âge, donc j'ai 35 ans et j'ai pareil deux enfants. Enfin c'est vraiment pas juste, surtout pour C'est pas juste pour quelqu'un comme lui, voilà. Bon, c'est vrai qu'après, il a fait son petit bonhomme de chemin aussi de son côté, mais on se croisait toujours, c'est quelqu'un qui, même dans la rue, on se croise, il nous oublie pas. Il y a peut-être deux ans de ça, on s'est croisés, il avait une grosse voiture sur la grande rue, et il a, comme elle avait les vitres teintées, il a baissé les vitres et il m'a dit bonjour. Enfin, c'est quelqu'un qui est vrai.
À l'annonce de son décès, les témoignages d'amitié se multiplient, et parmi eux, celui d'une star de cinéma, Alain Delon.
Philippe était un garçon magnifique, plein de vie, plein d'entrain. Sa mort m'a bouleversé parce qu'il est mort un peu trop jeune. Mourir à 35 ans quand on a fait le début de carrière qu'il a fait, c'est quand même très triste. Moi, j'ai connu Philippe quand il a débuté avec les Toubiteries. Il venait me voir sur les plateaux et sur les tournages parce que voulez-vous que je vous dise, il était très admiratif de moi. Il aimait ce que j'avais fait, il aimait ma carrière, il connaissait tous mes films, il avait à peu près tout vu. Il a eu une carrière tout à fait époustouflante au début et puis ça s'est arrêté net et puis il n'a pas très très bien compris, il savait plus quoi faire. Il a fait un peu de cinéma, un peu de télévision, la tournée en Avaro, il a fait du théâtre. C'est son rêve, c'était de devenir un acteur et il me disait toujours « Je voudrais faire une carrière comme la tienne et je voudrais rencontrer les gens que tu as rencontrés. Malheureusement, je pourrais pas tourner avec Gabin, mais bon, je pourrais peut-être que je tournerai avec toi un jour. »
C'était un admirateur du cinéma, c'est ça ?
Du cinéma et de ma carrière, et personnellement de moi, il est bon. Quand même, on avait beaucoup de traits physiques en commun. Philippe était pas mal fait de sa personne, donc vous le savez quand même. Il voulait faire une carrière artistique et ça, il en avait profondément envie, voilà.
Le 24 septembre 2009, c'est dans l'Essonne, en région parisienne, que les obsèques de Philippe Nicolic sont célébrées. Plusieurs personnalités du monde du spectacle sont là, ainsi évidemment que de nombreux fans effondrés.
Beaucoup de monde cet après-midi pour les obsèques de Philippe Nicolic, l'ancien membre des To Be Free. La cérémonie s'est déroulée dans l'église orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Des personnalités comme Roger Hanin ou bien encore Gérard Louvain, mais aussi des centaines de fans sont venus rendre un dernier hommage à cet enfant de la région. Philippe Nicolic a passé toute son enfance à Longjumeau dans l'Essonne. Écoutez ces témoignages.
C'est avec lui que j'ai grandi, je l'ai suivi depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, je voulais lui rendre un dernier hommage aujourd'hui, parce qu'il ne méritait pas de partir aussi jeune.
Je suis venu d'Alger, spécialement pour l'enterrement de Philippe.
J'aurais même voulu assister à la messe pour lui dire un dernier au revoir, parce que je l'ai connu en étant petit Philippe, il peut être mon fils aussi.
Ça a été énormément choc, quoi, parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. J'ai tout suivi, tout bifoui, les films qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Quoi. Et il va nous manquer énormément.
Partir un jour sans retour. Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas.
Qui part
avec un extrait de Partir un jour. Philippe Nicolic, le chanteur, s'est éteint en 2009 à l'âge de 35 ans.
L'année 2009.
En 2009, le taux de chômage progresse de 2,4 points. Et les salaires, eux, stagnent. La situation pousse les salariés à l'action. Au Festival de Cannes, des agents EDF coupent le courant.
Une grève d'EDF à Cannes en plein festival avec arrêt de travail, manifestations et coupures de courant. Les grévistes demandent l'ouverture de négociations sur les salaires depuis 2 mois maintenant et plusieurs événements ont donc perturbé hier les abords du Palais des Festivals.
Dans les palaces, les groupes électrogènes prennent immédiatement le relais. Mais les petits commerçants, eux, se retrouvent bien démunis.
Cannes, nuit noire, voilà. Plus personne et après les tortues ninja sur la croisette.
Ça, c'est les CRS.
Ça, c'est les CRS.
Et c'est vrai qu'ils étaient nombreux et en grande tenue. En tous les cas, beaucoup plus nombreux que les clients, comme cette Italienne que Michel a vue entrer et ressortir dans le noir en moins d'une minute.
Elle voulait acheter son chapeau et elle ne peut pas payer parce que la carte ne marche pas. Elle n'avait pas assez d'espèces.
Voilà, on est venu pour rien. En plus, on ne veut même pas fermer la boutique puisque l'alarme est électrique. Et le store aussi.
Mais celui qui est de loin le plus embêté... C'est le marchand de glace.
Je pense pas que les festivaliers se soient rendus compte de ça, ils n'ont pas été touchés, tant mieux, hein, tant mieux, ils ne se sont pas rendus compte de rien.
Sauf s'ils avaient envie d'une glace en sortant.
Et voilà, c'était le cas.
Mais en moins d'une heure, toutes les glaces avaient fondu. Il a fallu attendre 6 heures du soir pour déambuler enfin à nouveau avec son cornet.
Si à Cannes, on coupe le courant, à quelques dizaines de kilomètres de là, à Marseille, on assiste à des actes encore plus désespérés. Rose, 50 ans, est une maman sans histoire. Mais depuis quelques mois, son compte bancaire est systématiquement dans le rouge. Alors, elle décide de braquer sa marchande de journaux.
La voix est fragile, le visage un peu inquiet, et entre ses mains, Rose tortille son mouchoir, visiblement honteuse de ce qu'elle a fait, braquer sa marchande de journaux avec un pistolet d'alarme. Elle, la fonctionnaire, mère de famille, en arrêt maladie et criblée de dettes. Loyer impayé, avis d'expulsion, la quinquagénaire aux longs cheveux blonds n'avait plus qu'une obsession, trouver de l'argent. Alors un matin, à l'ouverture des magasins, elle a décidé, comme elle dit, de réaliser un emprunt forcé.
Je voulais pas commettre un vol. C'est que j'arrivais pas à obtenir de l'aide de personnes extérieures. Donc je me suis dit, je vais forcer quelqu'un à me prêter de l'argent et puis je lui rembourserai petit à petit. L'arme, elle était dans une sacoche, j'ai juste montré la crosse. C'était pas dans mon état d'esprit d'être violente, d'être agressive ou quoi que ce soit. Je suis pas rentrée en disant, oh les mêmes, machin, non, c'est pas ça du tout. Et je suis rentrée et puis voilà, j'ai prononcé ces paroles. Vous allez fermer la porte s'il vous plaît et tout ira bien. Je dis, je peux pas faire autrement, je suis dans la merde. C'était un suicide et un appel au secours.
Lors de son procès, son avocat tente de faire de Rose un symbole, la figure des Français en détresse. Rose écopera finalement d'un an de prison avec sursis. Mais cette maman de 50 ans n'est pas la seule à galérer. En Loire-Atlantique aussi, Bernard cherche des solutions. À 53 ans, ce commercial est au chômage depuis 8 mois et il désespère de pouvoir un jour retrouver du travail. Jusqu'au moment où il a l'idée de se considérer, lui, comme un produit à vendre.
Pour trouver un emploi, ce directeur commercial au chômage a voulu frapper fort. Il s'est offert 12 mètres carrés de publicité sur cet axe routier très passant. L'effet est immédiat.
Ce matin, j'avais 18 coups de fil en attente, mais il y a quelques propositions intéressantes. Donc, en fait, pour le moment, j'ai proposé à tous ces chefs d'entreprise, compte tenu du moment un peu fou, qu'on se rappelle dès lundi, j'ai des entretiens téléphoniques dès lundi, quoi.
Sur le panneau publicitaire, on peut voir Bernard, tout sourire, indiquant du doigt son numéro de téléphone et son adresse mail. La photo a pour titre « Directeur commercial audacieux, cherche entreprise du même profil ».
Et pour cette campagne d'un mois estimée à 5000 euros, ce Nantais n'a pas dépensé un centime. Il a su tout simplement convaincre un afficheur, une agence de publicité et cet imprimeur.
On peut être tous confrontés à ce genre de situation. Donc d'abord, ce n'est pas le premier à qui on file des coups de main et j'espère bien que ce ne sera pas le dernier. Le tout, c'est à voir si effectivement la cause est louable ou pas.
Évidemment, à une époque où les plus de 50 ans ont du mal à retrouver du travail, son histoire intéresse beaucoup les médias. L'initiative de Bernard est d'abord relayée par la presse locale, et puis elle prend très vite une dimension nationale.
Moi j'ai 53 ans, j'ai encore au moins 10 ans devant moi pour bosser quoi. Parce qu'à 53 ans, je veux dire, on peut faire encore plein de choses, on peut être décalé, on peut être aussi Pepsi qu'un jeune de 35 ans.
Et ce caca Pepsi est finalement embauché par des trentenaires aventureux.
Une start-up qui fait du monitoring web vient de l'embaucher comme directeur commercial. Son responsable avait appelé Bernard Moriange le lendemain du jour où il avait placardé son affiche sur une route des environs de Nantes. Une idée novatrice, son slogan l'était aussi. Directeur commercial audacieux, cherche entreprise, même profil.
Le chef d'entreprise m'a appelé, je crois que c'est tout de suite après un reportage qu'il a vu à la télévision. Donc il a été sur internet un petit peu se renseigner, voir mon CV, mon site web, mon blog, etc. Et puis sa réaction a été de dire que si j'étais capable d'avoir ce type d'action et de vendre mon projet à des partenaires, je devais être capable de vendre ces produits. Ce que je retire de cette expérience-là, c'est la possibilité d'avoir été en prise directe avec des décideurs, donc des chefs d'entreprise, puisque j'ai eu entre 25 et 30 opportunités de chefs d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui vous est permis par des actions et en fait qui vous empêche d'avoir le filtre du cabinet de recrutement qui met votre CV papier de côté parce que vous avez 53 ans.
Chine avec le lac en 2009, chanson extraite du 11e album studio du groupe intitulé La République des Météores.
Europe 1, on de la traconte. L'année 2009.
En 2009, à Coulonges-sur-Lautiz, dans les Deux-Sèvres, des dizaines de cadavres d'animaux sont retrouvés un peu partout. Principe ou visée, les poules et les lapins.
C'est en s'approchant de ces clapiers il y a quelques jours qu'Henri Millet a découvert les 11 cadavres, 11 lapins méthodiquement tués dans sa propriété. Cet habitant de Coulonges-sur-Lautiz a donc décidé de prévenir les gendarmes et de déposer plainte.
Quand j'ai voulu donner à manger aux lapins, j'en ai trouvé 11 morts par terre. C'est cruel de tuer des bêtes de cette façon. Quand on a déposé plainte aussitôt, on souhaite qu'une chose, qu'ils trouvent le coupable ou les coupables le plus tôt possible. On se demande de ce qui se passe. C'est un mystère.
Ce retraité est atterré, d'autant que certains lapins ont été en partie mangés.
On ne sait pas comment ils s'y ont pris, mais il y en avait deux, le ventre avait été mangé, il restait que la tête et la peau.
11 de ces lapins tués. Monsieur Millet en a fait la stupéfiante et macabre découverte dimanche matin alors qu'il s'apprêtait à les nourrir. Un de ses amis l'avait pourtant prévenu que depuis quelque temps, la nuit, dans le village, se passent d'étranges exécutions.
Il m'a dit, fais attention à tes lapins, à Coulonges, il y en a qui sont tués.
Ça n'a pas manqué.
Mais ça n'a pas manqué. Et on a été le premier dans le village. Quand on a été à la gendarmerie, ils nous ont dit « Vous êtes les quatrièmes ».
Les quatrièmes, mais pas les derniers. Une autre habitante de la commune a, elle, 26 lapins morts, a déclaré.
On a pensé que les lapins ont été soit assommés pour les sortir, pour les faire tuer par un chien. Pour le plaisir que le chien tue les lapins. Mais c'était mis de la même façon que chez Monsieur Mier. Il y en avait deux. Dans les toits, mort. Pareil.
La nuit suivante, rebelote. 10 autres lapins sont retrouvés morts.
Nous sommes rendus à avoir recensé 6 victimes dans les faits récents et plusieurs autres sur des faits un peu plus anciens, étalés depuis le début de l'année. Mais les victimes ne s'étaient pas manifestées au demeurant. Si on recense tous les faits avant la révélation d'un problème plein de victimes, on arriverait aux alentours de 90 lapins. Le mode opératoire est toujours le même. Les lapins sont tués par rotation de la tête, donc rupture des cervicales.
Pour les gendarmes, c'est clair, ces morts sont l'œuvre d'un humain. et en aucun cas d'un animal.
C'est pas un animal. Tous les faits constatés jusqu'à aujourd'hui ne sont que de l'œuvre d'une personne humaine. Tous les animaux ont été tués à main nue. Ça évoque plusieurs pistes. Bien sûr, l'œuvre d'un déséquilibré, mais ça peut être quelqu'un de très sain, mais qui a été perturbé dans son enfance, soit parce que le lapin qu'il avait est mort de maladie, ou écrasé, ou tué accidentellement par un parent, ou une personne flouée. Ça peut être quelqu'un de sain, pas spécialement déséquilibré.
Pour mettre un terme à ces exactions, les gendarmes mettent en place des patrouilles. Et les habitants aussi se relaient la nuit à proximité des clapiers. L'effet est immédiat, le carnage cesse. Mais quelques mois plus tard, à 15 km de Coulonges-sur-Lautise, ça recommence. Et cette fois, ce ne sont pas uniquement les lapins qui sont ciblés.
Plus de 150 animaux volés et les autres ont été sauvagement tués.
Dans le poulailler, il y avait une poche de Leclerc qu'ils avaient creusé, une poule éventrée et puis mis dans la poche comme ça.
Ils ont suspendu
ça comme ça.
Puis,
ah, c'est honteux, hein.
Puis il y avait plein de lapins devant qui étaient morts. Et puis on avait des mères lapines qui venaient juste d'avoir des petits, qui étaient tout petits en fait. Alors ces petits lapins, ils n'ont plus la mère, ils sont tous morts.
La gendarmerie est sur les dents de lapins, au grand désespoir des propriétaires d'animaux.
Pour le moment, les gendarmes, ils ne peuvent pas faire une enquête. Ils m'ont dit, comme le fait qu'il n'y a pas un voisinage, il n'y a rien autour. Trouver quoi et qui, ils n'ont rien comme indice.
Ils n'ont pas de piste alors.
Ils n'ont pas de piste, ils n'ont rien.
Le tueur en série de Coulonges-sur-Lautise ne sera jamais identifié. Américains de Gossip avec Heavy Cross, leur premier hit international.
L'année 2009.
En 2009, le chanteur Alain Bashung est fait chevalier de la Légion d'honneur. Sauf que depuis un an, on le sait atteint d'un cancer du poumon. En février, il doit annuler quelques dates de sa tournée, notamment un concert prévu à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand.
Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais Au chapitre des rendez-vous manqués, celui de Bachung, ce soir sur la scène de la Copée, le rocker baroudeur aux lunettes sombres et texte aiguisé et souffrant, le concert est reporté. Alors désormais, la question est, quand un nouveau rendez-vous? Et là, du côté de la Copée, on botte en touche, on espère, on attend la bonne nouvelle. Nous, c'est promis, on vous tient au courant.
Je t'ai manqué.
Quatre jours après cette annulation, l'artiste est sur la scène du Zénith de Paris pour les Victoires de la Musique. Ce soir-là, il reçoit le prix de la meilleure tournée.
Je veux remercier mes musiciens, mes techniciens, la société qui m'a aidé à faire cette grande tournée, ma femme Chloé. C'est des personnes qui se sont lancées avec moi dans une tournée qui pouvait s'arrêter n'importe quand. Et puis ils ont continué quand même, ils m'ont fait confiance. Et puis ils étaient aussi inconscients que moi. Et je les remercie.
Bachung remporte également le prix du meilleur album pour Bleu Pétrole. Et la victoire du meilleur interprète de l'année.
Oh, que dire. Merci, c'est magnifique. Ça brille, c'est lourd. Ah, est-ce que ça réchauffe le cœur? Oui, ça réchauffe le cœur.
On a envie de repartir dans la seule manière que l'on ait de pouvoir dire, et vous le savez, les artistes le savent, de pouvoir dire « je t'aime », de repartir dans une salve d'applaudissements, ça vaut toutes les paroles, tu as raison. C'est notre manière de te dire que l'on t'aime, et ça réchauffe le cœur.
Merci.
Sur scène, le chanteur apparaît très affaibli. Et dans la salle, l'émotion est palpable. Et elle monte encore d'un cran lorsque l'artiste entonne son titre, Résident de la République.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour, je sourirai moins. Jusqu'au jour, je ne sourirai plus. Un jour, je parlerai moins. Jusqu'au jour, je ne parlerai plus. Un jour, je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus.
Yeah. Après la soirée des victoires, Bachung ne s'avoue pas vaincu. Il cale une autre date pour le concert annulé de Clermont-Ferrand. Et il annonce aussi sa présence en tête d'affiche au Festival de la Côte d'Opale au mois de juillet.
Alain Bachung, l'artiste le plus récompensé des Victoires de la Musique. Pour sa 33e édition, le festival a donc sorti l'artillerie lourde.
À tout seigneur, tout honneur, il y aura Bachung, trois victoires de la musique, un seigneur, une véritable légende.
Mais quelques jours après cette annonce, le 14 mars 2009, Alain Bachung est emporté par la maladie.
Bonsoir, il y a deux semaines, lors des Victoires de la Musique au Zénith à Paris, Alain Bachung avait chanté « Un jour, je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus ». Cet après-midi, Alain Bachung est mort à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. À 61 ans, il a succombé à la maladie, un cancer du poumon dont il souffrait depuis l'automne 2007.
Au magazine Les Arts Occuptibles, on pleure la disparition d'un géant.
Alors pendant presque 30 ans, au gré d'une quinzaine d'albums, il se dessine une silhouette de chanteur hors norme, un tantinet à la marge avec une gueule ébouriffée, un chapeau, des lunettes noires, Bachung qui psalmodie quand il ne chante pas, Les Vertiges de l'amour, Joséphine, Ma petite entreprise, il reste en dehors des modes, toujours pour mieux toucher son public.
Parmi les artistes, Françoise Hardy est l'une des premières à réagir.
Je suis sous le coup de l'émotion et vraiment de la tristesse, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Beaucoup, à tout point de vue. Enfin, évidemment, c'est un de nos artistes les plus créatifs et je suis complètement bouleversée. Je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. C'est une saloperie, cette maladie. Oh, c'est triste, hein, vraiment.
C'était un immense artiste.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et puis son dernier album est absolument génial. Enfin, fait partie de ses meilleurs albums, je trouve. J'étais allée le voir à l'Olympia, justement. J'avais trouvé extrêmement courageux que malgré cette maladie, il fasse sa promotion, il fasse ses tournées. D'ailleurs, il en a parlé aux Victoires de la Musique. Il a remercié les gens qui avaient risqué cette aventure avec lui parce que, comme il le disait, on ne sait jamais, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain.
Françoise Hardy n'est pas la seule à être attristée. Alain Souchon est aussi bien triste ce 14 mars 2009.
Ça rend triste, ça. On est triste, on adorait ce garçon, puis il est voilà qui s'en va avec cette maladie atroce. Alors ça se coud, on est secoué.
Tous les chanteurs qui rendent hommage à Bachung insistent sur sa gentillesse, son humilité. Sont des points communs qu'on pourrait donner à l'un et à l'autre. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé ?
Un petit peu, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas beaucoup, on ne se fréquentait pas beaucoup, mais on avait chacun, si je l'invitais à une émission, il venait tout de suite sans se poser de questions, et puis on discutait un peu, puis on s'aimait bien, on a fait des photos ensemble, on se rencontrait autour de petits trucs comme ça, et à chaque fois on discutait et on sentait une chaleur. Moi, c'était le chanteur. Le plus important, je crois, en France.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran. À qui sourit la vie? Marcher sur l'eau. Éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine.
Osez, Joséphine, c'était Alain Bachung, bien sûr, qui nous a quittés en 2009. Ben voilà, 2009 c'est terminé. Merci à toute mon équipe, Pierre-Yves Falson, François Desmoulins, à la réalisation, Julien Pichenet et Valérie Inizon, à la conception. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrée à l'année 2009. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.